J'ai regardé High School Musical ce matin pour pas me sentir exclu parce que Tristan aussi est un fan de High School Musical.
C'est vrai, Tristan ?
Meilleur film du monde.
Pas d'accord. Je suis très peu d'accord, mais
Ouais, en vrai j'aime bien, ouais. Mais non. Ouais.
Eh bah tu es une grosse merde, tu mériterais de mourir. Non, si, bon, moi c'est... Enfin, c'est un des films devant lesquels je passe un meilleur moment, mais c'est pas le meilleur film du monde, mais ouais, c'est un des films qui me procure le plus de plaisir.
Et à quelle échelle de l'humanité on peut mettre ce plaisir ?
À quelle échelle de l'humanité ? Je sais pas, qu'est-ce que tu entends par échelle de l'humanité ? Tu aurais des exemples ?
Bah, genre, t'as vomir pendant que t'es en soirée.
Ça, c'est moyen kiffant, du coup, c'est pas trop au plaisir.
Mais c'est quand même un peu délire, okay. Quoi.
Ah oui, c'est délire. Okay. Ce mot.
Voilà, après t'as faire avorter ta meuf.
Ouais. Ouais.
Du coup, c'est en dessous, pardon.
Oui, c'est en dessous, d'accord, ouais. Parce que...
c'est toi moyen. Qui fais, tu tires le cintre et tout.
Donc voilà.
Ah non.
Donc ça, c'est. Ouais, voilà, ça, c'est le truc pas cool.
C'est le pire.
Pas cool du tout.
Je pense que c'est le
ouais,
pire.
Là, c'est pas délire. Même s'il y a tes potes autour.
Ouais, là, c'est dur de passer un beau moment.
Qu'ils font. Bois.
Voilà. Et après, si on monte, tu vois, s'il y a plusieurs étapes, évidemment, je vais pas te citer, mais si
tout
on
en
monte,
haut, ce serait quoi ?
Il y a un truc où tu peux, c'est baiser, voilà. Par exemple, ça c'est cool.
Ouais, mais il y a caresser un koala devant High School Musical. Ouais. Vraiment, c'est au-dessus, tu vois.
Et entendre son père dire je t'aime.
Ah bah.
À
c'est un peu la meilleure chose de la planète.
Mais attendez, mais. Enfin, ça n'existe pas. On est d'accord. Ça, c'est pareil, c'est une légende.
Bah, c'est comme le Père Noël, on attend qu'il arrive et puis on ne sait pas.
Si on dit ça aux enfants pour les rassurer, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils se rendent compte que ça n'arrivera jamais à personne.
C'est vrai.
Ok. Non, j'ai eu peur. Attendez, vous imaginez, en fait, c'est juste mon père à moi qui ne m'a jamais dit je t'aime. Ça aurait été vraiment, vraiment gênant.
Voilà. Ouais, ça serait un peu gênant, ouais.
It's alive. Il suffit d'une étincelle pour donner vie à quelque chose. Donc à l'image de Frankenstein et de sa célèbre créature, nous allons aujourd'hui dans Brainstorming nous lancer dans la création d'un monstre. C'est-à-dire qu'en partant d'un thème découvert en direct, on va sortir un maximum d'idées de nos têtes pour donner vie à une histoire. Sera-t-elle bonne ou mauvaise, on s'en fout. L'idée est juste de créer quelque chose. Et pour m'accompagner dans cette expérience, je suis avec mon acolyte de toujours, qui est décidément toujours là à me coller au basque, c'est Guillaume. Salut Guillaume.
Ah, merci de m'introduire de cette façon, c'est toujours très gratifiant.
J'aime bien faire un petit truc de passif-agressif comme ça quand je t'introduis.
Ouais, j'adore.
Et aujourd'hui, nous ne sommes pas que tous les deux, car nous avons encore une fois un invité, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'avoir des invités, et aujourd'hui nous sommes avec Arthur. Salut Arthur.
Salut Guillaume, salut Tristan.
Salut Arthur.
Bonsoir.
Est-ce que Arthur, on a le droit de dire Arthur Billy ?
Vous avez le droit, vous dites ce que vous voulez, parce que mon nom de famille, vous pouvez même dire, enfin, ce que vous voulez, sauf mon adresse.
Ok. Tu t'appelleras Salade pour moi, pendant tout le long de cet épisode.
Salade.
Salade.
Eh bien, dis-nous un petit peu, Salade, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Dis-nous un petit peu, présente-toi succinctement.
Dans ma vie, en ce moment, pas grand-chose, étant donné que c'est un peu la merde.
Je vois pas de quoi tu parles.
J'ai fini mes études, je cherche un travail.
Dans quoi ?
Dans... d'un truc qui pourrait me plaire, c'est assez complexe à trouver en vrai, parce que je cherche à peu près dans tout et je trouve à peu près dans rien. Et voilà, je fais énormément de théâtre et c'est une de mes passions.
Tout à fait. Tu es un improvisateur de qualité.
Justement, c'est ce que j'allais dire, ce qu'on peut dire, et c'est comme ça que Guillaume m'a présenté, c'est que tu es un improvisateur de talent, génie.
Non,
tu es né pour ça.
Tu es né pour ça.
Improvisateur, c'est vrai. Il n'y a pas de génie ou de talent, c'est chacun à sa manière de le faire. Et j'avoue que ça manque un peu en ce moment. Ça fait,
Mais il y a quand même des gens supérieurs à d'autres, non ?
Parfois, je me réveille la nuit et j'écris « Comparé !»
C'est,
vraiment,
c'est une blague d'improvisateur. Trop drôle.
J'adore les blagues.
Il y a tous les gens qui ne feront pas de l'impro, ils ne comprendront pas, mais putain, tous ceux qui en font, ils vont être là, mais excellent.
Mais est-ce que tous les gens qui ne connaissent pas l'impro s'attendaient au mot « comparé » Je ne pense pas.
Best blague.
C'est pas mal, c'est la surprise. Et d'ailleurs, juste pour rappel, hein, je te le dis même à toi, Arthur, c'est que en fait, cet épisode, on l'enregistre maintenant. Aujourd'hui, on est le 13 décembre, mais
le 13 décembre,
sera posté sans doute en mars.
En mars,
voilà. Et nous souhaitons une bonne journée droit international de la femme.
C'est ça. Et donc on va voilà, on peut faire plein de blagues d'actualité en précisant qu'évidemment elles ne sont plus d'actualité.
Ah si, sinon on fait des blagues d'actualité du futur où on anticipe l'actualité du futur.
C'est très difficile.
Et ce qui serait vachement rigolo, c'est que finalement en fait dans 3 mois, il y a Internet qui explose et finalement Internet n'existera plus et personne n'entendra ce qu'on est en train de faire.
On pourra le diffuser sur des radios. Ouais. Tu dis ça, comme si les radios disparaîtraient. Mais...
Ou alors on pourra le crier dans la rue.
On l'imprime et on le poste.
Ouais, c'est ça.
Oh mon dieu, ça serait tellement long. Mais on serait capable de le faire.
Du coup, Arthur, est-ce que tu as des petites expériences d'écriture ou autre? Est-ce que tu arrives d'écrire toi de ton côté pour le kiff? Ou est-ce que tu as déjà fait des projets?
Peu, enfin j'ai déjà réfléchi à plein de trucs. Mais j'ai rarement posé les... C'est con parce que j'aurais eu le temps pendant ces confinements, mais j'ai rarement posé mes idées sur un papier. Mais j'ai souvent des idées, j'ai sur mon téléphone, comme tout le monde, une note avec 1 milliard d'idées et de trucs qui se passent.
Et il me semble qu'aussi tu es fanat de comédie musicale.
Fanat, j'aime bien ça.
Tu es un ouais.
Ça c'est vraiment cool parce qu'en France, la comédie musicale est vachement mal vue auprès du public, j'ai l'impression du moins. Chaque fois que je parle de comédie musicale, on me dit ah mais non je sais pas, c'est bizarre, les gens ils se mettent à chanter comme ça sans aucune raison et tout.
Pas les gens ont l'air heureux.
Et moi justement j'adore ça.
Les comédies musicales françaises, parce que dès que tu dis La La Land c'est vachement bien, ils font ah ouais La La Land c'est vachement bien. Par contre, le Roi Soleil,
ouais c'est pas faux. Non, quoique après j'y pense, La La Land, j'ai plusieurs potes qui quand ils sont allés le voir, ils savaient pas que ça allait être une comédie musicale. Et ils ont pas du tout aimé, ils ont dit mais je sais pas, d'un coup ils se mettent à chanter, c'est trop...
C'est trop bizarre quoi.
C'est un truc de défoncé, c'est trop bizarre, tu vois.
Un truc de loser encore.
Je vais pas dire les noms, par respect pour leur anonymat, parce que sinon je crois que leur maison brûlera dans la soirée.
Non mais, ouais, c'est vrai que la comédie musicale est pas la chose la mieux vue en France, mais dans le théâtre en tout cas.
C'est trop dommage.
Les gens vont voir... De la comédie boulevard où une femme est cachée dans un placard, mais il y a une femme qui chante, c'est moins bien.
Mais c'est vrai que les comédies musicales sur scène, c'est un truc qui passe déjà mieux. Ça semble plus cohérent, entre guillemets.
J'ai vu que c'est plus irréaliste sur les pièces de théâtre.
Du coup, je crois que... est-ce qu'on ne serait pas tous un petit peu prêts pour se lancer sur notre petit brainstorming du jour? Qu'en dites-vous?
Franchement, moi, je suis pétachaud.
Oh, pétachaud.
Ouais.
Moi, je suis pétachaudasse.
Ah, je savais bien que t'étais une chaudasse. Donc, si vous êtes tous les deux prêts, il est temps de commencer l'expérience en découvrant l'éclair qui donnera vie à notre histoire.
C'est le calme avant la tempête.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Et l'éclair, c'est par rapport à Frankenstein, toujours. C'est très drôle.
Ouais, ah là là, mais... il est intelligent ce petit Arthur.
Super.
Hein. Ah là là.
Non, c'est vous. C'est vous qui êtes intelligent. On va faire des blagues filées.
Oh,
les
arrête.
Blagues filées. J'adore ça.
Mais non.
Et du coup, en parlant de l'éclair, aujourd'hui, nous allons de nouveau tester un nouveau format, une nouvelle manière de brainstormer. Et comment est-ce que ça va se passer, mon petit Guillaume?
Alors, très cher Tristan, aujourd'hui, on ne va pas partir de 2 mots sur lesquels on va brainstormer une histoire tout au long du brainstorming, mais on va partir depuis un concept existant, mais qui est un concept existant que moi ou Tristan avons réfléchi.
De notre côté, l'autre n'est pas au courant.
Voilà, en soi, ni Tristan ni Arthur ne savent ce à quoi j'ai réfléchi.
Ce que tu nous as préparé.
Voilà, je vous ai préparé... un petit truc, ça va être sympa, vous allez voir.
Et donc, vas-y, je t'en prie, fais-nous ta petite présentation de ce fameux projet.
Alors du coup, je vous ai écrit un petit pitch, voilà, j'ai décidé de mettre un peu les formes pour quand même, parce que, outre le pitch, je n'ai pas beaucoup de choses, je vais vous dire un peu quand même l'ambiance que j'imagine.
Ouais, en gros, t'as bossé mes moyens quand même.
Bah, c'est brainstorming, donc oui, je me suis pas cassé le cul, hein. Donc c'est l'histoire de Marc, qui est un guitariste égoïste et anarchiste de 80 ans, et depuis peu il a été forcé par ses enfants à vivre dans une EHPAD toute pourrie, de ses mots, hein. Heureusement, il commence à sympathiser avec Christiane, une vieille dame entêtée et imbue d'elle-même, et Jean-Phi, un petit monsieur timide et mythomane, avec qui ils essaient de rendre l'EHPAD un peu plus vivant. Seulement, les aides-soignants, médecins, psychologues et toute l'équipe de l'EHPAD s'organisent pour que le calme règne en maître dans la maison du repos.
Wow, c'est extrêmement stylé. J'ai envie de voir ce film. Il sort quand?
Merci. Eh ben, tout dépend de nous, de ce qu'on va faire là. Donc l'idée, c'est qu'en fait, donc ça se passe en EHPAD, c'est avec des personnages donc plutôt âgés. Et l'idée que je m'en fais, c'est que c'est un teen movie, mais en EHPAD, avec des personnages voilà qui sont très âgés. D'où le fait que j'ai mis Marc, qui est un guitariste égoïste et anarchiste. Voilà, et tout ce truc de où en fait ils vont essayer de faire vivre l'EHPAD et t'as pourtant une équipe. Qui tente de réprimer cette soif de liberté sous un prétexte de calme qui doit régner. Alors juste avant quand même de continuer, je tiens à dire que nous aimons les gens qui travaillent en EHPAD. Nous les admirons.
Enfin, moi je les connais, j'en connais aucun, donc j'ai pas d'avis particulier là-dessus.
Moi j'en connais.
Voilà. Moi
on les apprécie, c'est un travail pas facile.
J'en connais aussi. Voilà, ils font un taf de fou et merci à eux d'exister et de faire ce taf très sous-payé. Mais voilà, on va pas vous rendre hommage dans ce brainstorming. Vous allez clairement.
Ou du moins, on essaiera.
Désolé, mais vous êtes les relous de l'histoire.
Désolé.
On peut en mettre un gentil.
Oui, voilà. Il y aura le mec sympa.
Ouais, il y a toujours le petit outsider qui fait le lien entre du coup, dans un teen movie, t'as toujours l'adulte qui fait le lien entre les enfants, le monde des enfants et le monde des adultes. C'est l'adulte qui comprend un peu les gones.
Ouais, généralement, c'est le concierge.
T'as le concierge ou le mec
un peu stylé ou genre on se rend compte à la fin du film qu'en fait il adore tout ce qui se passe, il adore la musique, il adore le rock, il adore absolument tout.
Du coup l'idée c'est vraiment on est sur un teen movie, donc du coup dans l'énergie de Ferris Bueller ou Superbad plutôt que High School Musical.
Ce serait parce que du coup moi tu m'avais juste prévenu que ce serait un truc sur les teen movies. Donc de mon côté, j'ai vite fait réfléchi à ce qu'était un teen movie, parce que vu qu'on va jouer avec les codes, parce que là l'idée c'est vraiment de reprendre les codes du teen movie. Pour ceux qui l'ignorent, le teen movie c'est un film qui généralement met en scène des ados pour public visé des ados. C'est grossièrement ça, un teen movie. Et après il y a plein de genres différents, il y a le teen movie d'horreur avec les slashers, tous les films d'horreur, Scream, tout ça. Il y a la comédie potache avec American Pie. J'ai grandi avec American Pie. Je vous laisse voir ce que je suis devenu aujourd'hui.
Un poltron.
Je vous laisse voir la gueule de ma pâtisserie.
Oh putain, elle est tellement triste en plus, ma tapisserie, ouais.
Alors, t'as dit pâtisserie ?
C'est pas grave.
Et aussi, ce qui est plus à la Ferris Bueller, justement. Vous avez dit une vanne que j'ai pas entendue, là, je vous vois vous marrer.
Non, non. Non, c'est juste que j'ai dit pâtisserie et t'as relevé tapisserie et ça fait beaucoup rire, Guillaume.
Oui.
Mais c'est trop drôle parce qu'il a fait une blague sur American Pie et du coup c'est.
Ah,
c'est
d'accord, génial. Je crois que tu parlais de ma tapisserie derrière.
Ouais, ma pâtisserie elle est bizarre. Ouf, t'imagines.
Donc, du coup, toi Guillaume, tu partirais plus sur de la comédie dramatique à la Ferris Bueller. On fait des vannes, mais pas non plus trop graveleuses, pas. J'ai pas de fin à cette phrase, donc n'hésitez pas à me couper. Okay.
C'est une comédie, on est dans une comédie plutôt burlesque quand même, parce qu'on a des moments où ça reste des ados, donc des fois ils en font des caisses, ce genre de choses, donc c'est un peu délirant quoi, c'est délire.
Est-ce qu'on peut avoir un vieux qui deal de la morphine? On a juste un perso qui a tout le temps de la morphine.
De ouf.
Ouais, tu sais, c'est comme en taule, t'as toujours le mec qui peut obtenir tout ce que tu veux. Le mec à qui tu peux tout acheter.
Bah là, y a le...
C'est le... De ouf.
Le médecin, là où le médecin généraliste, il peut fournir ce genre de choses. Et donc on peut avoir ce genre de choses un peu délirantes et tout. Mais c'est, en effet, c'est pas graveleux, quoi, dans l'idée.
Ouais, non, ok.
Avec des moments un peu touchants, quoi, voilà.
Oui, évidemment, on cherche l'émotion, on cherche l'alarme.
Avec des thématiques de liberté, de...
Les premières choses auxquelles j'ai pensé, là, quand t'as dit ton pitch... Maintenant, plutôt que je commence à donner mes idées, dis-nous, toi, Arthur, un petit peu, là, de ce concept-là, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te parle pas ?
Franchement, enfin, je trouve le contre-pied hyper cool, en vrai, et du coup, ça apporte... Enfin, le fait de faire des parallèles avec des vraies scènes cultes de teen movie dans un EHPAD, ça peut être extrêmement drôle. Une course de fauteuil roulant illégal, après l'heure du coucher où tous les vieux ils font le mur et on se retrouve avec une scène où tout le public pleure de joie parce qu'on a une musique hyper épique où le mec il fait un saut en fauteuil roulant sur une rampe de ouf, tu vois, genre j'imagine des trucs comme ça, mais je trouve le concept est chouette et du coup ça peut vraiment apporter plein de trucs parce qu'en plus on peut parler de beaucoup de thématiques étant donné qu'ils ont techniquement déjà beaucoup vécu de choses. Alors que le teen movie, ça parle de apprendre à... C'est quoi la vie d'adulte?
Ouais.
Et justement, on peut reprendre ce parallèle de... Bah, c'était quoi la vie d'adulte, et venez, on l'emmerde la vie d'adulte, tu vois, un truc, on peut faire des trucs.
Ça c'est un truc qui me plaît beaucoup dans les teenage movies, du coup je rebondis sur ce que tu dis, c'est tu parlais de cette réflexion de c'est quoi la vie d'adulte. Les teenage movies, c'est beaucoup de réflexions existentielles, tu vois, de OK, maintenant qu'est-ce que je suis, où est-ce que je vais. Voilà, c'est vraiment des ados qui se rendent compte de leur existence, grossièrement.
Est-ce que je dois être chanteur ou basketteur?
Exactement. Et du coup, chercher des réflexions existentielles avec des vieux, ben, je trouve que c'est hyper intéressant. Et là, j'avoue que j'ai déjà quelques idées qui me viennent, mais avant, Guillaume, tu voulais intervenir?
Ouais, bah justement, je pense que ça va dans la même lignée de ce que tu allais proposer. C'est ce truc de ce que je trouve intéressant, c'est que quand t'es adolescent, tu cherches un sens à ta vie, parce que t'as toute la vie devant toi, donc il faut bien trouver un sens. Mais quand t'es vieux, en fait, normalement, t'as déjà trouvé le sens à ta vie, en fait, tu l'as sans doute dépassé. Le sens à ma vie, c'était fonder une famille. Bah, maintenant, tout le monde est indépendant, donc ils n'ont plus besoin de moi. Et du coup, ça pose la question de est-ce qu'il faut trouver un nouveau sens à sa vie ou juste vivre, se dire bah, j'ai plus besoin qu'il y ait de sens à ma vie pour juste.
Là, ça me fait penser au personnage de Marc. Du coup, c'est Marc ton personnage principal, c'est ça le papy
Marc
punk.
Marc qui est, je le rappelle, égoïste et anarchiste. Alors, juste, je précise, anarchiste dans le sens où il ne veut qu'il n'y ait plus de force d'oppression entre les gens.
D'accord, oui. Du coup, moi j'imagine vraiment que ça a été un jeune punk, etc. Le vieux qui se prend encore pour un jeune et qui même presque refuse la vieillesse, tu vois, qui est toujours avec des coiffures très punk, rasées dans tous les sens, etc. Du coup, il arrive dans cette EHPAD. Pourquoi est-ce que il est anarchiste? Pourquoi est-ce qu'il va venir s'amuser à bouleverser l'ordre établi, dans cette EHPAD?
Parce que du coup, il est, comme je le précisais, il est mis par ses enfants. Dans cette EHPAD, donc il n'est pas du tout là par plaisir. En fait, on lui a enlevé sa liberté en l'obligeant à y mettre, mais en même temps, si on le met là-dedans, c'est sans doute parce qu'il le faut, qu'il a besoin d'aide. Et du coup, il refuse de je pense aussi, comme beaucoup de personnes âgées, au bout d'un moment, tu n'es plus capable de prendre soin de toi-même, et il y a vraiment ce refus qui arrive de. Il y a ton honneur ou ta fierté qui est mise en jeu, ou d'un coup, bah. Ouais, pour aller aux toilettes, bah, t'as besoin de quelqu'un, quoi, et ça l'a fait mal. et du coup, je pense que ça peut être un peu ça, le parcours de Marc, où il y a ce truc de, il veut être libre comme il l'a toujours été, mais en fait, il faudrait qu'il accepte que, justement, il peut plus être libre de la même manière.
De ouf.
Quel genre de choses il pourrait faire pour essayer, justement, de créer cette anarchie? Donc, au début, il arrive, donc le Nebat fonctionne bien, etc. Il fonctionne comme il a toujours fonctionné. Et lui, il arrive et il veut foutre, entre guillemets, la merde, pour pouvoir développer cette anarchie. Qu'est-ce qu'il peut faire comme action pour... Tu disais tout à l'heure, Arthur, organiser des courses clandestines. Moi, ça me fait aussi penser à un genre de fight club.
Il peut faire du strip bridge. Organiser des... Les vieux, ils font tout le temps du bridge ou des jeux ou du loto, tu vois. Et organiser des trucs clandestins où ils parient du vrai argent ou leur patrimoine. Tu sais, il y a des scènes où il y a les enfants d'autres personnes âgées qui viennent signer le testament. Et en fait, le vieux, il détruit, il le met en jeu, son testament, en mode vas-y, je m'en fous. Vas-y, si je perds, t'as ma baraque, tu vois. Genre, il crée vraiment le bordel, machin.
Ah ouais, trop bien.
Là, oui, j'imagine bien, genre une belote hardcore, tu vois.
Moi, j'imagine vraiment où, dans la belote, ils mettent en jeu justement leurs médicaments.
Ouais, ouais, voilà.
Ouais, j'avais ça aussi. Vous parliez du vieux de la morphine, là. Je vais répéter ton truc, ils peuvent mettre en jeu leurs médicaments. Voilà, je suis inutile.
Non, mais... tu sais, genre, reprendre les clichés des soirées américaines. Des soirées dans les teen movies, justement, à l'American Pie ou quoi, où juste t'as une soirée entière où ils font du beer pong et genre ils ratent tout, ou juste des trucs nuls où les vieilles elles commencent à faire des où les vieilles dames elles commencent à essayer de faire des concours de t-shirts mouillés, tu vois, ou des trucs débiles où elles se sentent complètement libres, où on s'en fout, tu vois.
Pour le beer pong, ils pourraient justement, au lieu de jeter des balles parce qu'ils en ont pas, ils jettent des médocs. Et du coup, à chaque fois, ils doivent boire des médocs.
Ils prennent les médocs. Ils doivent boire des médocs.
Et c'est des trucs qui leur donnent la chiasse, tu vois.
On l'appelle le ping-pong.
Wow.
Ah, bien le ping-pong. Au lieu que ce soit dans un gobelet qu'ils balancent les médocs, Et en fait, t'as le mec qui est censé prendre ces médocs-là, qui se soit sur une chaise et qui ouvre la bouche, il faut viser directement dans sa bouche. Comme ça, genre, ils prennent leur médoc en même temps qu'ils jouent.
Ouais, c'est ça.
Là, je pense, tu parlais des soirées américaines. Là, je suis en train de repenser un petit peu aux différents tropes qu'il y a dans les teenage movies. Et il y a le trope qu'on ne peut pas oublier du bal de fin d'année. Il faut trouver un équivalent au bal de fin d'année.
C'est la soirée de Noël. c'est le réveillon du 24 au soir, où genre ils doivent tous se mettre sur leur 31, machin.
Où t'as le petit club de théâtre du quartier qui vient leur faire un petit spectacle.
Je pensais à ça justement dans le sens où c'est pour ça que j'ai fait de Marc un guitariste, où j'avais cette idée de, ou en tout cas cette envie où Marc essaie de créer un concert, de faire un concert dans les pads. Donc, mais un concert un peu plus hardcore que juste de la musette ou quoi.
Ouais, qu'un bal dansant comme ils ont l'habitude.
Et j'avais même imaginé qu'avec ses partenaires, ils montent un groupe et que tout le long de l'histoire, en fait, justement, leur goal, c'est ça, en fait. C'est de monter ce concert.
Oui, de faire le concert à la soirée de Noël.
Malgré les empêchements et la direction qui est là en mode « Vous ne ferez jamais votre concert. Vous m'entendez ? Jamais. »
Ouais. J'aime bien cette idée où en fait c'est tu sais ils sont pas très nombreux, ils peuvent être 3 4 à essayer de faire cette sauterie là, cette méga teuf. Et en gros en fait c'est pour eux, c'est une manière de répandre la bonne parole et de réveiller tous les autres j'allais dire détenus, non pardon, tous les autres locataires. Et ouais, en gros ça fait vraiment genre une petite escouade de rebelles qui essayent de se battre contre l'oppression entre guillemets, l'oppression du EHPAD. Où au début, du coup, il va falloir qu'ils trouvent chacun de ses membres et qu'ils se créent un lien d'amitié avec eux. Et au fil de leur préparation de cette méga teuf, au fil de leur manigance, on va découvrir chacun de ces personnages et chacun de ces personnages va avoir un développement particulier. Parce que voilà, le Teenage Movies, c'est on suit différents personnages et chacun de ces personnages a un problème à résoudre.
De ouf. Mais c'est hyper... oui, ce serait hyper intéressant, toute la scène où, de recrutement du groupe, où il peut même faire passer des auditions, tu sais, il y a toujours la scène où lui, il est dans son fauteuil avec son pote qu'il a trouvé, tu vois, et ils sont dans la chambre 408, tu vois, et t'as tous les pions qui comprennent pas, parce qu'il y a tous les vieux de l'EHPAD qui font la queue devant la chambre 408 et qui répètent des trucs, tu vois, genre, et tu vois, il y a vraiment la scène...
du coup, c'est hyper long, parce que, genre, c'est des vieux, donc ils mettent 15 ans à rentrer...
t'as toute la queue devant la chambre 408. Il y a du coup Marc à l'intérieur en train de faire passer les auditions, et à l'extérieur en train de faire le guet, il y a du coup le pote de Marc, le premier pote que Marc va se faire et le pote avec lequel ils vont décider de faire cette méga teuf, qui fait le guet. Chaque fois que quelqu'un arrive, il leur fait un signal genre vite dépêchez-vous, quelqu'un arrive. Et du coup quand t'as l'infirmier ou l'infirmière qui rentre, ouais, ils sont en train de faire une belote c'est vraiment le cliché du vite, on range tout, on cache tout sous le lit, etc. Hop, et ils arrivent, ils sont en train de faire un truc tout simple, et t'as l'infirmière, mais vous faites vraiment tous la queue pour jouer à la belote.
Et tout le monde qui dit ouais, Marc il est
oui,
hyper
mais
fort,
c'est une sacrée belote, vous savez, ils sont vraiment très très doués.
Et justement le premier pote moi j'ai cité deux potes personnellement. Il y avait Christiane, qui est une vieille dame entêtée et imbue d'elle-même, et Jean-Phi, qui est un petit monsieur timide et mythomane.
C'est cool, en vrai c'est cool.
Redis la première.
Christiane, une dame entêtée et imbue d'elle-même, et Jean-Phi.
Alors, juste pause parce que du coup, elle s'en va, je reviens.
Je t'en prie. Manque de professionnalisme, moi je...
Bah, tu lui diras quand il reviendra.
Non, je vais juste faire « Oh, tu vas bien, oui, il n'y a pas de souci, ravi que tu sois là. »
Tu fais toujours dans le dos, ça.
Non, tu me connais, moi.
C'est fourbe, Tristan, je trouve.
Bah oui.
C'est pas très honnête.
Plus une question d'être honnête, c'est que j'aime pas blesser les gens, tu vois. Et du coup, je préfère les insulter dans leur dos bien sale. Comme ça, moi, je me libère et eux, ils vivent leur vie tranquillement. Je trouve ça très sain.
Bizarrement, j'ai l'impression que c'est pas super sain. Mais après, peut-être que toi, t'as raison et que moi, j'ai tort. J'avoue que...
C'est souvent ça, ouais.
Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est souvent ça, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je me remets un peu en question, quoi.
C'est bon, pardon.
Le revoilà. Bon. Pas de souci. Donc, du coup, ouais, entêté, c'est ouais, quelqu'un qui est fonceur, qui, quand il a une idée, il la garde. Et même s'il a tort, c'est très difficile de lui faire changer d'avis.
Et tu vois, cette Christiane, ça peut être justement une chanteuse qui a eu une carrière de ouf dans les cabarets et tout. Et qui est, et du coup elle parle plus à personne, elle est devenue exécrable parce que c'était vraiment une diva que plus personne ne reconnaît, tu vois.
Oui, elle finit dans une EHPAD toute pourrie.
Ouais, genre, tu sais, il l'entend fredonner. Tu sais, genre, à un moment donné, il l'entend fredonner, genre, pendant qu'elle se fait laver par une infirmière ou quoi. Et juste, il écoute, tu sais, il est assis, et puis il commence à faire des petits riffs de guitare, machin. Tu sais, la scène un peu cool, où tu vois, elle commence à fredonner dans sa chambre.
Un truc qui est plein de non-dits, en fait.
Et après, elle se met à chanter de ouf.
Donc, dis, ouais.
Mais tu sais, voilà, ils ont des chambres côte à côte.
Et ils se font un petit jam, tous les deux. Ah, ça, c'est la bonne idée. Et genre, du coup, lui, il l'entend fredonner à travers le mur. Du coup, il se met à faire quelques riffs de guitare. Elle l'entend, du coup, elle lui répond. Et j'aime beaucoup ça. Et...
tu sais, c'est la vieille que dans l'EHPAD, en fait, bah, les gens, ils n'allaient pas la voir. Les aides-soignants, ils avaient peur, tu vois. Genre, c'est la chambre 409, c'est celle qui est tout le temps fermée, où personne ne va, tu vois. Et du coup, c'est ce développement, tu sais, parce que comme tu disais, dans les Teenage Movies, il y a tous les persos, ils ont un développement, mais justement, elle va s'ouvrir aux autres et genre, elle va se rendre compte que tout le monde l'aime bien et tout ça. Ça peut être marrant.
Ouais, de ouf. Et du coup, j'imagine bien sur la file d'attente, là, justement, finalement, ils trouvent que. Ils sont tous nuls à chier. l'autre Jean-Phi, là, timide et mythomane, ça pourrait être trop drôle, justement, vu qu'il est mythomane, qui réussisse à inventer. Qu'il a été justement il a été un grand batteur ou un truc du genre et en fait que il se rend compte qu'il a été qu'il sait pas du tout faire de la batterie mais genre beaucoup plus tard dans l'histoire tu vois.
Oui c'est ça et genre le jour du concert il sait plus en faire, tu sais, genre il fait genre j'ai oublié comment on faisait. C'est la fameuse scène.
Ouais, dans les répétitions. Ouais, parce qu'il y a les répétitions. Là, ça peut être dans les répétitions où, genre, à chaque fois, il a un truc.
C'est ça.
Où il se casse.
À chaque fois, genre, il reste à côté et puis.
Oui, il se trouve un truc. C'est excusez-moi, il y a mes petits-fils qui viennent me voir. Oh là, faut que j'y aille. Ou alors, ouloulou, là, j'ai une sacrée chiasse en ce moment. Excusez-moi, je peux pas participer.
Ah, et je verrais trop une scène vachement émouvante, du coup, où, genre, au bout d'un moment, il y a l'un des personnages principaux ou un autre personnage hors du groupe qu'il trouve Jean-Phi assis dans les toilettes, genre en train de pleurer parce qu'il est là en mode, mais comment je peux faire? Je sais pas faire de la batterie et tout. Et qu'il y a un personnage qui dit, mais non, il faut que tu leur dises. Tu peux apprendre. Si tu vas à fond, d'ici 3 semaines, tu pourras réussir à jouer le solo.
Et ça, là, je veux dire, ce personnage, c'est Jean-Phi, le mythomane?
Ouais, timide et mythomane.
Ce que là, je suis en train de me dire, c'est pourquoi est-ce qu'il est mythomane? Encore une fois, là, les Teenage Movies parlent de l'adolescence, donc si on fait un Teenage Movie avec des vieux, il faut parler de la vieillesse. Est-ce que ce serait pas parce qu'il n'a rien fait d'exceptionnel dans sa vie? Vraiment, il a eu la vie la plus lambda du monde. Et en fait, c'est un énorme regret pour lui. Il se dit, putain, genre, moi je suis rien aujourd'hui, toi t'es punk, l'autre elle a chanté, c'est une diva, moi je suis rien du tout à côté de vous. Et il y a presque un regret sur sa vie. Et le truc, ce serait peut-être d'apprendre que, en fait, t'as pas besoin d'avoir une vie exceptionnelle pour être exceptionnel.
Ouais, ou qu'il est jamais trop tard pour faire des choses, même quand on est très âgé, quoi. Donc c'est tout le truc qui tourne autour du fait que justement il peut apprendre la batterie, même s'il n'en a jamais fait, quoi.
Et là, ça me fait penser. J'aime penser à un truc, genre, il a Parkinson, du coup, il fait des super riffs à la batterie sans le vouloir. Et...
Oh mon dieu.
Voilà. Je sais pas trop si ça marche comme ça.
Ah ouais, si. Mais d'ailleurs, tous les batteurs ont Parkinson. C'est bien connu.
Je suis en train de penser à d'autres sujets sur la vieillesse qui pourraient être abordés dans le film. Il y a une réflexion que j'avais notée il y a pas longtemps, mais. Du coup, je la ressors pour brainstorming. C'est que une maison de retraite, c'est un peu comme un jeu du loup-garou. C'est-à-dire que à chaque fois que le jour se lève, il y a potentiellement quelqu'un qui se réveillera pas.
C'est horrible.
C'est horrible. Oui, c'est très dur. Mais d'un autre côté, c'est vrai, c'est une réalité de l'endroit. C'est vraiment un endroit où les gens attendent de mourir.
Oui, mais c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre.
Oui, le loup, c'est la maladie, quoi.
Dans le jeu du loup, t'as un mec, c'est un méchant. Genre, l'EHPAD, il meurt parce que c'est la vie.
Oui, je suis bien d'accord avec ça.
Les loups-garous, c'est la vie.
Mais ouais, dans le sens où je pense qu'il y aurait cette petite pression, peut-être, dans. Parce que du coup, je sais pas, moi, comme je l'ai dit, je connais personne qui travaille en EHPAD ou qui a été dans un EHPAD de ma famille. Du coup, je sais pas, peut-être qu'il y a cette pression-là de se dire que, voilà, potentiellement, tous les gens que je croise, là, ils peuvent partir d'un moment à l'autre.
Ouais.
Wow, c'est sérieux d'un coup. Ça vous dit, on refait des blagues sur Parkinson avec la batterie.
Allez.
Et aussi, du coup, je pensais, pour l'antagoniste principal, je me disais, c'était bien d'avoir une aide-soignante qui soit... qui soit vraiment, qui incarne vraiment cet antagonisme principal qui va gérer toutes les équipes et qui va être là en mode elle fait tout pour pas que, enfin c'est elle qui apprend qu'ils veulent faire ce fameux concert et elle veut tout faire pour empêcher ça parce que justement en faisant la répétition ils empêchent d'autres de dormir.
Là, on a un vrai mood à la Harry Potter 5 avec Ombrage et l'équipe de Voldemort, là, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ouais, ouais, si, si.
L'armée de Dumbledore, pardon. Ah. Et du coup, il y a un vrai truc, genre, ils ont leur chambre, pas chambre des secrets, leur salle sur demande, etc., où ils s'entraînent et tout. Et elle va mettre en place des rondes, etc., pour essayer de les piéger. Mais eux qui sont punks, ils vont toujours trouver des manières de détourner, de continuer
ça,
à avancer.
Il faut un vieux. Tu sais, genre, qui soit amoureux de cette aide-soignante et genre, il l'aide à tout. Tu sais, genre, c'est la grosse poucave. Tu sais, genre, vraiment, genre, il est tout le temps au fond, genre, en train de les regarder et puis il essaie de courir vers l'aide-soignante. Tu sais, genre, vraiment, t'as la scène hyper lente où, genre, t'as juste un couloir et lui avec son déambulateur qui marche pour aller l'avertir. Tu vois,
c'est trop hyper lente. Eux, ils fuient, mais très lentement. Et lui aussi, il est très lent. Il va essayer de dire.
Ouais, c'est ça, mais c'est, par là. C'est typiquement la scène dans OSS 117.2, tu vois, où ils sont à l'hôpital. Oh, putain, et ils se réveillent et ils courent avec le déambulateur.
Ah, oui.
Et genre, c'est débile, tu vois. Et c'est typiquement ce genre de scène.
Et la salle sur demande, qu'est-ce que ça pourrait être dans l'EHPAD?
La première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été un KGB ou une petite salle comme ça où personne ne va jamais, mais on va dire que c'est peut-être un peu facile.
Est-ce que ça serait pas la salle, la chambre justement de la vieille de Christiane qui est
vu que personne n'ose rentrer dedans.
Et du coup, elle fait en sorte d'effrayer encore plus tout le monde
les
éloigner à certaines heures.
C'est ça. Genre, dès qu'il y a une infirmière qui vient, mais je veux pas d'infirmière. Genre, elle l'engueule de ouf et tout.
Vous avez vu Dr. Patch?
Non.
Avec Robin Williams?
Ouais.
Ouais, je l'ai vu, ouais.
Du coup, dans Dr. Patch, ça se passe dans un hôpital et il y a une chambre où personne n'ose jamais rentrer. Et à chaque fois que qu'on voit quelqu'un sortir de cette salle-là, elle est en train de chialer en mode cette personne est horrible. Et on peut vraiment voir ça. Genre, on ne voit jamais ce que fait la diva, mais on voit juste les conséquences que ça a sur les membres.
On voit tous les aides-soignants et genre, on les voit démissionner.
Ah ouais, il pourrait y avoir une scène comme ça où la directrice des aides-soignantes recrute et fait passer un casting à plein d'aides-soignants et genre elle les engage et les uns après les autres ils s'en vont et aucun d'eux n'arrive à passer Christiane.
Oui, c'est ça, c'est la petite scène, mini-scène où t'as la directrice qui fait c'était la 15e. Genre, c'est juste ça où ils en peuvent plus.
C'est vrai, je vois vraiment la scène où. Une scène souvent un petit peu musicale, un peu clippée. Où tu vois à chaque fois, donc c'est plein d'entretiens que fait la directrice, où t'as une nouvelle personne qui dit « Oui, alors moi, voilà, j'adore m'occuper des vieux, etc. C'est vraiment ma passion. » Puis tu la vois partir et du coup, t'as un tampon rouge sur « éjecté », genre « démissionné ».
Démission.
Et à un moment, t'en vois une autre qui sort de la chambre, genre elle est à moitié cramée. Tu te dis « Mais attends, mais comment ça s'est passé ?»
Mais tu sais, c'est genre la scène de... Il faudrait filmer comme si t'étais la réceptionniste de l'EHPAD, avec les portes qui s'ouvrent et tout. Et genre, elle vient, elle fait « Bonjour, je suis la nouvelle, machin. » Et genre, c'est dans les 15 secondes, elle repart en courant, ou le mec, il repart en pleurant, le mec, il part en rampant, et tout. Genre, il en peut plus.
J'imagine, pour le dernier aide-soignant, il y a un aide-soignant qu'ils vont recruter, où ça va marcher, et c'est André. Et genre, il serait là, « Moi, André, j'adore m'occuper des gens. » Tu vois, et il serait baraqué 2 mètres de haut, 90... kilos de muscles et c'est le seul qui justement arriverait à combattre et à mettre en échec notre groupe et justement ça pourrait être le milieu de l'histoire où d'un coup jusqu'à maintenant ils avaient leur chambre sur demande pour faire leur répétition et là bam ils l'ont plus et il faut qu'ils trouvent un nouveau moyen pour faire leur répète et pour réussir alors que Noël est dans 2 semaines quoi.
Pour le contre-pied ce serait drôle que ce soit genre justement il y a un gros baraqué qui vient. Et genre, il se fait éjecter, il part en pleurant, tu vois. Et il y en a une toute petite meuf en jupe et tout, genre hyper gentille et tout. Et là, on voit juste une scène où Christiane, elle pleure. Tu vois, genre c'est cette toute petite, toute mimi où on se dit, bah, elle est pas méchante, genre, elle est trop chou et tout. Et genre, elle sort de la chambre, elle fait... Et elle s'en va, vraiment. Et t'as Christiane qui pleure.
Ah oui, ça pourrait être marrant, ça, oui. qu'elle, en fait, elle utilise la manipulation psychologique pour les.
Ouais, c'est ça, et tu sais, la petite, elle passe à côté du mec baraqué, genre, elle. Tu sais, genre, il est encore en train de pleurer.
Excusez-moi.
Poussez-vous.
Là, j'étais en train de penser à la diva, donc elle ne supporte pas les gens, elle est insupportable avec tout le monde. Pourquoi elle est comme ça? Du coup, on avait dit parce qu'elle a été une grande, quelqu'un de grand à l'époque, elle était une grande diva, une personne célèbre. Mais je pense que là, on a un support intéressant pour du coup le développement de ce personnage-là. Voilà, qu'est-ce que elle pourrait apprendre du coup et pourquoi elle a besoin d'apprendre ça?
Mais ce serait bien que genre tout ce qu'elle a eu toute sa vie, c'est sa belle voix. Et en fait, elle a eu une maladie aux cordes vocales, tu vois, qui l'a affectée. Mmh. Et en fait, elle chante toujours bien, mais avec une voix différente. Mmh. Et c'est ça que Marc, il entend et il se rend compte, parce qu'il l'entend fredonner, parce qu'elle continue de chanter malgré le fait qu'elle ait perdu la seule chose qui était importante pour elle, c'était sa voix, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle déteste tout le monde, c'est parce qu'elle a peur que les gens, maintenant, la haïssent ou un truc comme ça, parce qu'elle a plus cette voix qu'elle avait avant, tu vois.
Mmh. J'adore cette idée de voix, parce que tu sais, dans les musiques... punk, metal, etc. Tu sais, t'as toujours ce qu'on appelle le scream, cette manière de chanter.
Très, très guttural.
C'est ça, très guttural. Et du coup, elle pourrait du coup, finalement apprendre à chanter comme ça. Et, ça pourrait être une bonne surprise à la fin. Là, je pense qu'il y a aussi le fait que, bah, du coup, comme tu le dis, et c'est un truc que j'aime bien, c'est que, voilà, en fait, elle a perdu la chose la plus précieuse de sa vie, sa voix.
Ça la remet en question.
C'est ça, j'avais plus en tête que elle a. Bah non, elle sait que tout a une fin. Elle sait que, dire, même pour elle, la fin approche, pour tout, la fin approche, et elle ne veut plus rien perdre, en fait. Et du coup, voilà, en ne s'attachant à personne, lorsque cette personne partira, ou lorsque elle partira, ils ne se sont pas attachés, du coup, elle n'aura pas le sentiment de perdre quelque chose.
Ouais, elle n'aura pas de regrets.
Et justement, le truc, ce sera en fait de dire que, même si les choses ont une fin, ce n'est pas pour autant que ça ne vaut pas le coup de les vivre.
De ouf.
J'ai du mal à saisir, du coup, le lien entre le fait qu'elle ait peur de, que ça se finisse pour elle et sa voix.
En fait, sa voix, c'est l'élément déclencheur, en gros. Elle a perdu ce qui est le plus précieux pour elle. Ça a été hyper dur de vivre avec ça, de reprendre sa vie avec ça. Du coup, elle ne veut plus jamais rien perdre. Et le fait qu'elle se rende compte qu'elle puisse encore utiliser sa voix, finalement, c'est le fait de se dire que, finalement, même si c'est quelque chose que tu as perdu, ça t'a apporté quelque chose qui te permet de continuer par la suite. Voilà, que chaque expérience est bonne à prendre, en fait.
Ok. Je trouve ça un peu flou, personnellement, mais ok.
Non, mais le fait que du jour au lendemain, elle ait appris... tu sais, un flashback où elle ait appris qu'elle avait un cancer des cordes vocales, machin, qu'elle s'est fait soigner et que, du coup, ça les a abîmées.
D'accord.
C'est vraiment... Du coup, elle a... Depuis, les gens l'ont... Enfin, du jour au lendemain, étant donné qu'elle a été... elle a été rejetée par tout le monde, en fait. Elle a été, elle a été virée de son cabaret parce qu'elle d'accord. pouvait plus chanter.
Ouais. Là, ça me parle plus.
Ouais, vraiment. Ah, genre... appuyer le traumatisme.
Appuyer vraiment le fait que, bah, à cause de ça, toute sa vie, elle a tout perdu, quoi. En perdant cette chose-là, elle a tout perdu. Et du coup, ce qui fait que, bah, elle est devenue vachement renfermée parce qu'elle a... Du coup, elle a vachement... Elle a l'impression qu'en fait, sa seule chose qui la rendait, entre guillemets, désirable auprès des gens... unique auprès des gens, le fait que les gens l'apprécient, bah c'était sa voix, et du coup elle a perdu ça, et elle a même pas envie d'essayer d'être aimée par les gens, parce qu'elle sait que, étant donné qu'elle a plus sa voix, elle le sera pas, tu vois ce que je veux dire?
C'est hyper intéressant.
Ah, là ça me parle plus,
parce que du coup on aurait un parallèle, mais après du coup on a Marc le mythomane qui a rien vécu d'exceptionnel, enfin non, Jean-Phil mythomane qui a rien vécu d'exceptionnel, et du coup il ment sur toute sa vie.
Et Marc, lui, c'est le gars qui...
Ouais, Marc, il est anarchiste, égoïste.
C'est ça, qui aimerait avoir plus de liberté, mais qui doit accepter que, bah, en vieillissant, bah, on est obligé d'en perdre, quoi.
Là-dessus aussi, j'ai un truc intéressant, peut-être intéressant, vous allez me le dire. Dans la vie, Marc, il a eu ses enfants, donc c'était un moment où lui, il s'occupait d'eux. Et il y a ce moment que j'imagine très difficile quand tu vieillis, où d'un seul coup, le rapport de force s'inverse. Du coup, c'est tes enfants qui doivent prendre soin de toi. Et pour quelqu'un d'aussi libre, qui se sentait aussi fort et bon vivant que Marc, je pense que ça peut être un sujet hyper intéressant à développer. Que d'un seul coup, il faut qu'il accepte que maintenant, voilà, c'est mes enfants qui s'occupent de moi.
Bah, l'idée, justement, c'est plus... c'est pas ses enfants qui s'occupent de lui, c'est justement...
Oui, ses enfants sont débarrassés de lui, c'est vrai. J'avais oublié ça en le mettant dans le Népal.
Et donc, du coup... En fait, ouais, c'est l'idée qu'il était un poids lourd pour ses enfants et il ne l'acceptait pas. En fait, il se voilait la face. Mm-hmm. Et du coup, en se mettant en EHPAD, c'est un peu ses enfants qui lui ont mis face à la réalité. Et donc, je pense, l'EHPAD, en fait, pour lui, c'est le moment d'accepter cette réalité, quoi.
Ouais, mais tu vois, il se serait bien que, genre, tu sais, à la scène de fin, il y a juste, il finit son truc sur scène, son concert, et il y a juste ses enfants qui l'aident, tu sais, genre, tout simplement, qui l'aident à descendre de la scène.
Ouais, de ouf.
Et genre, c'est juste en mode...
qu'il accepte ça, quoi.
Il accepte, il leur tend... Tu vois, genre, en fait, ce serait bien, genre, qu'à chaque fois, s'il y a un flashback ou quoi, genre, dès qu'il descendait les escaliers, qu'il galérait, il lui tendait la main, et puis il leur tapait, genre, il refusait à chaque fois... C'est tout le long du film, dès que ses enfants ils lui proposent un truc, il refuse et tout. Et genre, il y a juste cette scène où il lui tend la main et il la prend. Et tu sais, genre, juste en mode.
Ah ouais, ça serait
pour,
beau, ça.
Pour fermer l'arc, tu vois.
Un moment où il accepte que maintenant il va avoir besoin d'aide.
C'est ça.
Si, c'est intéressant, il commence à être intéressant ce Marc.
Et du coup, du côté de l'aide-soignante en chef, qu'est-ce qu'elle pourrait. Quel arc elle pourrait avoir, justement qu'est-ce qu'elle pourrait apprendre de tout ça? Comment elle terminerait à la fin? Que du coup, elle, le début, c'est elle veut pas qu'il y ait trop de bordel pour laisser ceux qui le doivent se reposer et se ressourcer, quoi. Mais du coup, ça en devient presque un mouroir, quoi.
Tu vois, on parlait du fait que là, on n'allait pas vraiment mettre en valeur les aides-soignants dans cette histoire-là. Et je pense que justement, ce personnage-là peut être hyper intéressant pour justement les mettre en valeur et là, vraiment parler de eux, comment ils vivent ce travail. Donc, là, j'avoue que je vois pas trop actuellement quoi raconter parce que c'est un sujet que je ne connais pas. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une belle réflexion sur, ok, elle, comment elle trouve sa place dans tout ça. Et est-ce que si elle essaye de tout réglementer, etc., c'est qu'elle pense bien faire. Pour elle, elle pense que c'est quelque chose de nécessaire, que c'est important pour eux. Il faudra montrer que, d'un côté, oui, elle a raison, ce cadre qu'elle met en place est important, mais qu'il faut pas qu'il devienne non plus étouffant.
Moi, ça me paraît aussi le plus logique.
Mais après, quelle forme ça pourrait prendre exactement? Et pour les détails, là, si on devait développer le projet, faudrait aller dans un EHPAD, voir comment ça se passe vraiment, pour vraiment se faire une idée de...
Ouais, demander à des vrais aides-soignants de comment fonctionne leur journée, etc.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très, très débordés. Ils ont beaucoup plus de travail
que de temps.
Il n'y a pas de moyens non plus...
Et ça peut être un truc hyper intéressant de ce que du coup Marc, par sa soif de liberté, il va vraiment les pousser à bout. C'est eux qui galèrent déjà pas mal avec ce métier-là. Il y a des retombées négatives du comportement de Marc.
Ouais, c'est justement pour ça que je voulais en faire un mec qui est égoïste aussi. Parce que du coup, en fait, il a tellement soif de liberté et il est tellement égoïste qu'il fait même pas attention à tous ceux qui n'ont pas besoin de cette liberté ou en tout cas... ceux envers qui cette liberté peut les piétiner, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre aspect là qu'on pourrait essayer de gratter, de développer autour de ce concept? On a déjà parlé un petit peu des personnages, le mythomane, on a un peu parlé de lui. En action, du coup, que pourrait faire Marc pour se rebeller, on a parlé du fait de faire un grand concert à la fin. Ce concert, comment il va se dérouler, du coup? Si on reprend les codes du bal de fin d'année, comment est-ce qu'il pourrait se passer?
Pour moi, c'est genre c'est l'aide-soignante directrice qui dirige l'événement. Tu sais, elle embauche un groupe, elle embauche un clown, elle fait venir tout et tout, vraiment.
Ça,
genre,
ça serait trop marrant qu'elle elle embauche un clown. Je trouve ça trop bien. Le clown, à la fin, il est dans le concert, elle est en mode mais.
Il y a juste un plan du clown qui kiffe dans le concert. Tu sais.
En fait,
justement, c'est genre pour amener ce côté teen movie, c'est le bal de Noël. De base, c'est nul. Vraiment, c'est genre tout le monde s'ennuie.
Ouais,
y a rien du tout. Enfin, c'est vraiment le seul truc bien, c'est le menu. C'est les gens, ils mangent, ils sont contents parce qu'ils mangent bien une fois dans l'année, tu vois. Et ce serait du coup intéressant de juste qu'ils trouvent un moyen de couper l'électricité à un moment donné, de monter sur scène. C'est de monter sur scène et de commencer à jouer vraiment.
Profiter du chaos.
Et là, t'as toutes les personnes âgées qui genre ils mangent et tout et puis ils font.
Il lève la tête.
Tout le monde regarde.
Il y a la lumière.
Pour moi, ça doit être. Ouais, c'est ça. Ça doit être clandestin, quoi. C'est vraiment genre, ils sont là.
Ouais.
Et du coup, il va falloir, pour mettre ce projet à bien, il faut entre autres une diversion des aides-soignants pour pas qu'ils les arrêtent pendant le concert. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour occuper les aides-soignants comme ça?
Du coup, il y avait déjà la coupure de courant. Et en plus de ça, il pourrait créer un truc à l'extérieur. Tu vois, pour enfermer les aides-soignants à l'extérieur de l'EHPAD. Et justement, ce qui peut être intéressant avec ça, c'est que du coup, ils les enferment à l'extérieur par un quelconque moyen. Et en fait, pendant le concert, donc, tout le monde s'éclate. Et sauf qu'il y a l'un des vieux qui va avoir une crise ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, du coup, ils vont être obligés, le groupe va être obligé de refaire rentrer les gens de l'EHPAD, les équipiers, pour le sauver. Parce, et du coup, c'est là qu'ils vont se rendre compte que il faut accepter la...
J'aime bien parce qu'on passe de la confrontation à la collaboration.
C'est intéressant.
Et ça peut être vraiment cool pour une fin, pour un climax.
Ouais. Non, parce que je me disais, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est les aides-soignants se retrouvent à l'extérieur. Et comme c'est Marc qui a organisé tout ça, enfin, ils se doutent que c'est Marc. Du coup, ils appellent ces petits-enfants. Et justement, les petits-enfants essayent de convaincre Marc. Et justement, on peut avoir cette résolution à ce moment-là où Marc décide d'accepter l'aide de ses enfants en les laissant entrer avec toute l'équipe.
Moi je voyais... Je les voyais différemment. Justement, en fait, je voyais le fait que pendant le concert, pour faire diversion, c'est les enfants de Marc... Genre, tu sais, tout au long du film, il y a eu une confrontation entre eux. Et tu vois, genre, t'as les enfants de Marc qui appellent tous les fils et les enfants des personnes en EHPAD et qui font une grosse manifestation devant pour attirer l'attention de tout. Tu sais, ça pourrait être aussi un truc un peu en mode, genre, où t'as juste la scène où t'as Marc qui voit à la fenêtre son fils avec une pancarte, libérer nos vieux ou un truc comme ça, tu sais, j'en sais rien, le petit regard complice où du coup il se casse et il va faire le concert pendant que ils disent envoyez-nous l'aide-soignante pour négocier machin, ou j'en sais rien, faudrait qu'ils trouvent un... Mais j'aime bien aussi le côté collaboration, mais je voulais juste pas laisser mon idée passer à la trappe.
T'as bien fait. Moi, mais j'aime bien l'idée du fait qu'ils ramènent tous les enfants de chacun des vieux dans l'EHPAD à la toute fin, tu vois, qui est une espèce de gros stuff où il y a vraiment tout le monde ensemble, tu vois, c'est hyper galvanisant, quoi, comme fin. Ouais, c'est plein cool, d'espoir, comme dans les teen movies.
C'est ça.
Et puis, c'est vrai aussi, là, je repense aux tropes des teen movies. L'un des tropes récurrents des teen movies, c'est la musique, souvent punk rock ou électro. On a toujours une bande son très punk rock électro pour des vieux en EHPAD. Est-ce qu'il y aurait pas un truc à trouver, un genre de musique qui correspondrait bien à un EHPAD?
Ben, une musique un peu à la Renault, hein, pour moi. Faut que ça soit un truc un peu comme ça, hein. Parce que Renault, c'est un peu vieux. Enfin, après, ça commence, c'est pas si vieux que ça, mais ça l'est un peu quand même. Et il y a ce côté un peu déjà rock de vieux loubar, tu vois. Ou à la Johnny,
ouais,
quoi.
Ouais, si, ça me plaît bien. Un style, ouais, ben, un style un peu vieux rock.
Ouais.
Là, je pense aussi à le court-métrage, les tutos de Camille, le court-métrage sur Noël, du coup, c'est Jérôme Niel, enfin, le personnage de Camille joué par Jérôme Niel, qui doit rendre les derniers cadeaux parce qu'il a renversé le Père Noël en voiture.
Oui, c'est
Et il y a une scène où il se bat avec des nains dans un jouet club, et où ils mettent une musique, où c'est une musique qui a un style un peu vieillotte, assez énergique, mais avec une voix et une manière de chanter très vieillotte.
Ouais, pour moi, faudrait que ce soit du Renault qui chante du Sum 41, tu vois.
Ouais.
C'est genre,
L'image est parfaite. L'image est parfaite.
C'est vraiment, c'est 'cause I'm in too deep.
Ah, énorme.
Il faudrait vraiment que ce soit un truc assez énergique, où vraiment il y ait des scènes d'action très qui poussent vraiment notamment la course poursuite.
Je trouve que l'idée de reprendre l'idée des fauteuils roulants est vachement bien. Les courses de fauteuils roulants, ça pourrait être bien d'installer ça au début, où ils font des courses de fauteuils roulants, et au final, par la suite, ça les aide à échapper justement à l'équipe de l'EHPAD.
Ah oui, genre Jean-Phil, le mythomane, il est en fauteuil roulant et genre il a peur. Enfin, tu sais, genre il le pousse à sauter au-dessus d'une rampe, mais il a trop peur. Tu sais, genre il ose pas et
déjà,
tout.
Déjà, il y a une rampe dans l'EHPAD, c'est fou.
Et à un moment donné, il est poussé, enfin, genre il est poursuivi par un aide-soignant et du coup il est obligé de passer par là. Et tu sais, genre t'as juste cette scène où genre il prend la descente et tu sais, il saute la rampe et t'as juste le plan sur Jean-Phil qui est pas bien au
ralenti,
en train de sauter.
Qui est en train de dégueuler en même temps.
Est-ce que ce serait pas le moment de sa vie où pour la première fois il lui arrive quelque chose de dingue?
Ah oui, mais oui, c'est parfait.
Oui.
Et justement, à la scène de fin, il raconte à ses enfants ça. Genre, et là j'ai sauté, mais je me suis jamais senti autant en vie qu'à ce moment-là. Tu vois, genre vraiment, genre il le pousse. Genre, ce serait génial.
Ah
vraiment,
ouais,
du coup, c'est
bien. Ce serait trop beau. Et même que ses enfants fassent putain, papy, papa, du coup, plutôt, on savait pas que tu savais faire de la batterie. Pas très bien, mais tu sais en faire, quoi.
J'ai une trop bonne anecdote, si vous voulez.
Ouais, vas-y.
C'est passé il y a quelques semaines. Du coup, mon grand-père a chopé le Covid. Donc oh, un peu triste, mais ça s'arrange à la suite, hein, rassurez-vous.
Okay.
Il a chopé le Covid, il est allé à l'hôpital. Mais genre, il n'avait aucun symptôme ni rien. Et bon, c'est vrai que mon papy, il est plus tout jeune, hein, je crois qu'il a près de 80 ans.
Oui,
et du coup, ils l'ont gardé à l'hôpital pendant 2 semaines, alors qu'il n'avait rien. Et genre, dans sa chambre, il n'avait pas le droit de sortir de sa chambre, pas le droit de se lever de son lit. Mais il n'avait pas de télé, il n'avait rien du tout. Et vraiment, au bout d'une semaine, il en avait vraiment ras-le-bol, il gueulait tout le temps sur l'infirmière, etc. Parce qu'il voulait juste sortir, faire des trucs. Il n'en pouvait plus. Et c'est quelques jours plus tard où on reçoit un appel d'une infirmière qui dit « Oui, bonjour, est-ce que vous êtes venu récupérer votre grand-père ?» Enfin, votre père, à mon père. Et ben, non. Et là, elle dit « Ah, d'accord, donc il est encore dans les locaux ?» Ben, vous êtes supposé le savoir.
Papy, il est dans la nature.
Il est en train de fuguer.
Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a fait ses affaires et il a fugué. Il s'est barré de l'hôpital. C'est-à-dire que mon papy, il a même du mal à se lever le matin de son lit. Et du coup, il s'est vraiment levé lui-même. Il est parti en marchant dans la rue et il est rentré jusqu'à chez lui en faisant du stop.
Mais non. Les gens qui l'ont pris en stop, ça devait être extraordinaire.
Il est pas hyper punk, mon papy.
Mais il est de ouf. C'est lui qui jouera Marc.
De ouf. Pour moi, c'est marrant.
Donc voilà, quand j'ai appris cette histoire-là, c'était incroyable.
Mais c'est génial. Mais c'est comme le livre et le film, le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire.
Pas fêter son anniversaire.
Oui, je l'ai vu.
Mais c'est génial, ça. Mais c'est une vraie histoire, en plus.
Ah bon, c'est une vraie histoire?
Ouais.
Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs fantastiques dedans.
Oui, mais c'est basé sur une histoire vraie.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce projet, sur ce concept?
Franchement, j'ai hâte de le voir.
J'avoue aussi.
Eh bien, écoutez, vu que nous avons fait le tour de notre sujet, je pense qu'il est maintenant temps de passer à la conclusion. En fait, généralement, à ce moment-là, pour t'expliquer, Arthur, je dis « Parfait, maintenant qu'on a bien brainstormé, il est temps de récapituler à quoi ressemble notre monstre. Okay. » Mais vu qu'on ne fait plus le truc de récapituler, il va falloir que je réécrive ma phrase de transition. Et donc, c'est parti, jingle, on s'en bat les couilles et je vous emmerde.
Écoutez ça. Cela ne me dit rien qui vaille.
Wow, c'est allez, punk ça.
Ouais, moi aussi je suis punk. On s'arrête plus, mon gars. Moi j'ai pas de limite. Nos futurs.
Oh, ça m'étonne pas de toi. T'as toujours été un gars comme ça.
Il va voler des fauteuils roulants maintenant. Il va essayer de sauter les rampes. dans les skateparks.
Il va marcher sur l'herbe alors qu'il faut pas marcher sur l'herbe.
Ouais.
Oh, Popo, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars?
Il va faire un panneau. Ne marchez pas tout court, en fait. Et il va mettre devant le parc. Prends ça, macaron.
Ouais.
Oui, sentez sur les panneaux, ne marchez pas. C'est souvent, tu sais, un pied qui vient se poser sur l'herbe. Du coup, le mec, il vient marcher, mais sur les mains. Qu'est-ce que vous allez me dire?
Ça, c'est punk.
Hein, il va marcher sur les mains, il va jusqu'au panneau, il sort un stylo et il barre ne et pas.
Oh, marcher. Et du coup, ça fait marcher sur l'herbe. Po, le gros rebelle.
Oh mon dieu.
On a le prochain, on a la suite. On a le 2.
Ouais, c'est ça.
C'est le fils de Marc.
On a les retraités 2. Le retour.
Ah, c'est vrai, on n'a pas trouvé de nom à ce film, à ce projet.
Oui, c'est vrai. Comment on l'appelle?
Alors, il y a une BD qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, d'ailleurs, ça me fait penser.
Mm-hmm. Ouais, il y a une adaptation que j'ai pas vue, mais qui est apparemment très très bonne.
Ok. Mais après, le titre.
Bah, c'est dur, hein.
Et il faut que ça soit un jeu de mots et pas...
Il y a pas mal de trucs, vous savez, du genre punk mon tube ou, tu sais, punker quelque chose.
Ouais.
Du coup, on pourrait faire un truc dans le genre où, vu que le vieux, il vient, il punk.
On pourrait l'appeler « Et pas d'ennui ». Et pas d'ennui.
Moi, Arthur, c'est « Rock in chair ».
Oh,
ça, c'est bien. Ça, c'est stylé. Moi, je vote pour « Rock in chair ».
Ah, trop beau. J'adore.
J'adore. Je suis fan. Quel génie.
Eh bien, écoutez, les gars, c'était vraiment génial. Malheureusement, il faut le dire, c'est la fin de l'émission. Et ouais, c'est triste, hein.
Oupsi.
Ah là là. Oupsi.
Là, par exemple, Arthur Billy est en train de faire un petit visage.
Ouais, un peu
et
triste.
Une petite position. C'est génial. Si vous nous envoyez 100 euros à notre Tipeee, vous aurez la webcam de Arthur
si
Billy.
Si vous créez notre Tipeee et que vous envoyez 100 euros dessus, vous aurez la webcam.
Oh.
Et donc du coup, juste avant de se quitter, Arthur, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver, des réseaux? Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais et il est temps qu'on apprenne à se faire de la pub.
Et oui.
Mais c'est mon, enfin je non, non. Parce que, enfin je fais pas grand chose.
Tu es dans une équipe d'improvisation, me semble-t-il, Arthur.
Ouais, on fait pas, je fais partie, je vais faire de la promo, du coup justement, ouais. J'allais rebondir pas pour moi, mais pour la troupe qui j'espère renaîtra. C'est la troupe sur Bordeaux qui s'appelle la Lubrique, qui est une troupe d'improvisation bordelaise et avec un K à la fin, LUBRIK, qui est un petit caméléon, et également les J'ai pas tout compris. Qui est une autre troupe d'improvisation dans laquelle je fais partie. Et j'ai beaucoup de chance de faire partie de ces deux troupes et on espère que ça reviendra parce qu'en mars, on est censé faire une comédie musicale improvisée avec 22 personnes sur scène. Voilà. Mais ça, c'est pas gagné tout court. Parce que
vous l'aurez loupé la au moment COVID... où ça sera posté.
Ah, peut-être que ce sera le cas au moment où ce sera posté. Peut-être que dans un mois, il y aura
voilà.
une comédie musicale avec 22 personnes sur scène.
Et toi, mon petit Guillaume, on a donc ton Instagram, j'imagine.
Tout à fait. Maintenant, il y aura mon Instagram qui est dans la description. Oui. Je ne sais même pas comment se nomme mon Instagram, mais voilà, vous pouvez y aller dessus. Il arrive que des fois, j'existe sur cet Instagram. Voilà. Et c'est hyper fun, en général. Il y a vraiment des vannes.
C'est des grosses boutades. Des grosses boutades.
Des grosses boutades que Copy Comic m'a volé.
Non, mais Copy Comic, c'est pas celui qui dénonce justement les vols.
Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que Copy Comic est lui-même un copieur et c'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour pas qu'on le prenne.
D'accord, en gros, il pointe les autres du doigt pour pas qu'on regarde ce que lui il fait.
C'est ça.
Alors que c'est hyper obvious, c'est dans son nom.
Ouais, bah, il s'appelle Copy Comic.
Bonjour, je copie des comics. Ouais. Les gars,
franchement, ouais, il faudrait qu'il revoie sa stratégie marketing parce que là, c'est pas ouf.
Ouais. Bah après, faudrait que tu revoies Tristan vu que c'est toi Copy Comic.
Non, du tout, c'est pas vrai. Moi, en réalité, si. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur ma page bio.
T'imagines le moment où ce podcast va sortir, je pense que Copy Comic, ça sera devenu totalement ringard. Bah oui. Tout le monde sera en bas.
Mais, putain, il faut encore des blagues sur ça. Ça l'est déjà.
C'est vrai, j'avoue. Donc des blagues ringards sur mon Instagram
voilà,
aussi.
Voilà, n'hésitez pas.
Et toi, Tristan ?
Et du coup, moi, pareil, Instagram, la chaîne YouTube où on publie des trucs de temps en temps.
Et comment elle s'appelle, cette chaîne YouTube, Tristan ?
Elle s'appelle MEH'. Mais du coup, on a vraiment mal trouvé le nom de notre chaîne YouTube parce que, du coup, quand on la cherche dans YouTube, on tombe jamais dessus. Après, tu me diras, vu qu'il y a 60 abonnés, c'est pas surprenant.
Ouais, et qui cherche MEH'?
Oh, il est fort, il cale le nom, il cale l'écriture.
Aïe, aïe, aïe.
C'est le mec.
Allez,
une chaîne avec des analyses vidéo sur le cinéma de très grande qualité de la part de Tristan Bouillon-Perron, hashtag CopyComic.
Hashtag Tio, surtout Tio, retenez Tio, CopyComic, je sais pas qui c'est. Et puis on nous a déjà vus tous les deux en même temps durant une soirée costumée à Saint-Denis-sur-Saône. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour de nouveaux brainstorming.
Qui c'est le meilleur ?
Oh, c'est toi le meilleur ?
Non, c'est toi le meilleur !
Et je suis le meilleur !
Tu es le meilleur !
D'accord !
Oh, c'est rigolo !